Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Face à une situation particulièrement préoccupante, le Premier ministre Jean Castex remonte en première ligne aujourd'hui pour annoncer le basculement de plusieurs départements en alerte maximale contre le Covid-19 avec de nouveaux couvre-feux à la clé.
Après les municipales, l'épidémie pourrait-elle perturber le déroulement des prochaines élections régionales et départementales ?
Une commission devra trancher d'ici la fin de l'année entre partisans d'un report et ceux qui redoutent une crise démocratique.
Dans votre journal également, quand l'assurance chômage se trouve prise dans un redoutable effet ciseaux.
Oui, d'un côté une baisse historique de ses recettes dues aux mesures de soutien à l'économie en pleine épidémie, puis de l'autre une explosion de ses dépenses sous l'effet de la récession. Invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes, Michael Zemmour, économiste à l'université Paris 1. Toujours en France, nous irons également à la cour d'appel de Paris où étaient rejugés ce matin 7 décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, condamnés l'an dernier pour vol en réunion. Et puis à l'étranger, nous nous intéresserons tout à la fois à l'ultime duel télévisé ce soir entre Donald Trump et Joe Biden, mais aussi à la manière dont les Irlandais vivent leur reconfinement depuis ce matin. Enfin, le Parlement européen vient tout juste de décerner son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à l'opposition au Bélarus. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Au lendemain de l'hommage national rendu par Emmanuel Macron au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, de la sidération à la cohésion. Comment transformer nos émotions pour faire face collectivement au drame? On en parlera avec notre invité, le sociologue Jérôme Truc.
La situation serait-elle en passe de devenir hors de contrôle sur une partie du territoire? Hier, plus de 26 000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été dépistés en France, soit 6 000 de plus que la veille. Le pays a également enregistré 166 morts, faisant ainsi passer la barre des 34 000 décès depuis le début de la pandémie, au point que le gouvernement ne semble plus écarter l'option d'un reconfinement partiel pour les zones à risque maximal si le couvre-feu ne produisait pas ses effets d'ici 3 à 4 semaines. Margot Delpierre, bonjour.
Bonjour.
Seule certitude pour l'instant, Jean Castex devrait annoncer aujourd'hui le basculement de plusieurs départements en alerte maximale avec de nouveaux couvre-feux à la clé.
On ne sait pas encore quels sont les départements concernés, mais on peut déjà se reporter au taux d'incidence. Il correspond, on le rappelle, au nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur 7 jours. Et ce taux est en forte hausse à Clermont-Ferrand, Tours et Nantes, par exemple. Ajoutons aussi à Strasbourg, où il double chaque semaine selon l'ARS du Grand Est. La maire de Strasbourg a d'ailleurs annoncé ce matin que le marché de Noël dans sa forme traditionnelle était annulée. Les 300 chalets sont supprimés, restent des animations de rue. Ce marché attire d'habitude 2 millions de visiteurs en un mois. À Dijon, Metz, Nancy, Toulon également, on peut imaginer un couvre-feu comme il en existe déjà en Île-de-France et dans 8 métropoles, dont Montpellier et Toulouse. On peut aussi s'attendre à ce que le nombre de communes sous couvre-feu en Occitanie grandisse. Dans cette région, la situation est critique. Tout le territoire est touché, y compris les territoires ruraux, s'inquiète le directeur général de l'ARS Occitanie, et il devient même difficile d'accueillir les patients dans les hôpitaux. L'ARS Occitanie compte chaque semaine 500 nouvelles hospitalisations, dont 150 en réanimation. Dans deux semaines, le niveau d'engorgement sera le même que celui atteint au printemps. Enfin, autre hypothèse soulevée par des chefs de parti, une extension du couvre-feu qui commencerait à 19 au lieu de 21h. Il faudra attendre la fin de journée pour en savoir plus.
Merci Margot Delpierre. Et puis je précise que c'est aujourd'hui que doit être mise en ligne la nouvelle application Tous Anti-Covid, censée accompagner la stratégie de lutte contre l'épidémie avec quelques nouveautés, parmi lesquelles une carte des centres de dépistage et les temps d'attente renseignés par les utilisateurs, mais aussi un accès à l'attestation dérogatoire de déplacement pour les zones sous couvre-feu. Le Covid-19, toujours lui, aura-t-il raison des prochaines échéances électorales en France? Hier, le Premier ministre a confié à Jean-Louis Debré, ex-président du Conseil constitutionnel, le soin de mener des consultations et de faire des propositions quant à un éventuel report des élections régionales et départementales de mars 2021. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors tout le monde garde en mémoire l'épisode, disons, chaotique des dernières municipales, dont le premier tour avait eu lieu en pleine épidémie avant un report du second tour fin juin. Et pour tenter donc de résoudre ce nouveau casse-tête mêlant enjeux de santé publique et démocratique, eh bien, le Premier ministre a décidé, outre Jean-Louis Debré, de s'appuyer sur l'ensemble l'ensemble des responsables politiques de l'opposition, manière pour l'exécutif Pierre de faire montre d'abord de sa volonté de parvenir à un véritable consensus et puis surtout d'éviter un procès en manœuvre électoraliste.
Et pour trouver un consensus, l'exécutif s'en remet aujourd'hui à un homme libre, Jean-Louis Debré, un chiracien pur jus, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Un homme qui a pris de la hauteur et de la distance avec la chose politique, une personnalité difficilement contestable à droite notamment. Et c'est parce qu'il y a des résistances à droite sur cette question des régionales et départementales que le choix de Jean-Louis Debré est particulièrement habile quand des voix discordantes se font entendre. C'est par exemple Richard Ferrand et François Bayrou qui se disent favorables à un report des scrutins. C'est au contraire Renaud Muselier, président des régions de France, qui affiche toute sa détermination. On ne touchera pas au scrutin de mars. C'est aussi le président du Sénat, Gérard Larcher, qui exige que le calendrier électoral soit respecté, sauf si la situation sanitaire venait à se dégrader. Ce que l'on redoute, à droite comme à gauche, c'est que le débat démocratique ne puisse se tenir en temps et en heure. En ce sens, le projet de loi d'urgence sanitaire est un indicateur, puisque l'état d'urgence devrait être prolongé jusqu'au 16 février prochain. Autant dire qu'il deviendrait impossible d'organiser une campagne de terrain avec ses tractages et ses meetings. On le voit, ces élections sont devenues un enjeu de santé publique, mais surtout un sujet politiquement inflammable, car nombreux sont ceux qui veulent profiter de la dynamique des municipales à un an de la présidentielle. Et c'est pour éviter une nouvelle controverse qu'il est aujourd'hui demandé à Jean-Louis Debré de trouver un consensus et de formuler des propositions. Pourquoi pas un nouveau calendrier électoral ? Ce serait alors la décision d'un sage qui éviterait à l'exécutif d'être accusé de tripatouillage.
Merci Pierre Neveu.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel, il est midi 38 sur France Culture. Toujours parmi les conséquences de la crise sanitaire, les prévisions financières de l'UNEDIC apparaissent d'ores et déjà désastreuses.
Oui, le régime de l'assurance chômage qui pourrait être amené à indemniser fin 2020 quelque 420 000 personnes supplémentaires par rapport à l'année précédente devrait enregistrer un déficit d'une ampleur inédite, un peu moins de 19 milliards d'euros. Eh bien, pour mesurer l'étendue des dégâts, ce chiffre est à mettre en regard des prévisions annoncées avant le début de l'épidémie. En l'occurrence, au mois de février, les gestionnaires du régime espéraient renouer avec les excédents à partir de l'an prochain et mettre ainsi fin à une décennie d'exercices déficitaires. En vain donc, et pour évoquer cette chute vertigineuse des comptes de l'UNEDIC, mais aussi plus largement la question du financement de notre modèle social, Catherine Pétillon a joint au téléphone il y a quelques minutes Michael Zemmour, économiste à l'Université Paris 1, ainsi qu'au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Michael Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le détail, les prévisions financières de l'UNEDIC publiées hier montrent que sa dette se creuse essentiellement à cause du financement du chômage partiel qui a été très facilité dès le début de la crise. C'est plus de 50% de la hausse, mais c'est finalement aussi ce qui a amorti le choc et évité des destructions d'emplois. On pouvait faire autrement ?
Non, c'était une bonne décision de mettre en place le chômage partiel. Et effectivement, ça a protégé le revenu de la majorité des ménages. On peut même se demander finalement si on en a fait assez du côté de l'assurance chômage. Il y a une grosse intervention avec le chômage partiel. Par contre, pour les personnes qui avaient perdu leur emploi ou qui étaient déjà au chômage, finalement, l'action des pouvoirs publics a été assez timide. Et aujourd'hui, on nous alerte sur l'augmentation de la pauvreté. Une augmentation, nous dit-on, de 10% des ménages qui seraient bénéficiaires du RSA par rapport au début de l'année. Et ça, c'est un signal que l'assurance chômage ne protège pas assez.
Mais donc finalement, il aurait fallu dépenser plus encore ?
Peut-être qu'il aurait fallu dépenser plus sur cette année 2020 et sans doute aussi sur l'année 2021. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des destructions d'emplois, des personnes qui peuvent être intermittents ou même les indépendants, par exemple, qui ne sont pas suffisamment protégés par l'assurance chômage. Et pour leur éviter de tomber dans une situation de pauvreté dont on sait qu'il est très difficile de sortir, ouvrir le parapluie, entre guillemets, c'est-à-dire déployer des droits à l'assurance chômage correspondant à la situation exceptionnelle, ça serait sans doute une bonne idée, oui. Et il n'est pas trop tard.
Mais comment financer ça ? Parce que là, l'UNEDIC présente un déficit qu'elle qualifie d'historique.
Alors, c'est vrai que c'est historique, mais la situation est historique. Le déficit n'est pas un problème en soi. Le déficit, c'est un moyen d'intervention publique dans les situations de guerre, dans les situations de dépression économique et dans les situations d'épidémie qu'on connaît. Ça permet au pouvoir public d'intervenir rapidement. Et donc aujourd'hui, tous les économistes sont d'accord pour dire que le problème principal qui nous guette n'est pas un problème de déficit, c'est un problème de dépression économique, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'économie s'arrête. Et ce qui peut contribuer à ça, c'est l'inquiétude des ménages. Si vous avez peur de perdre votre emploi et de ne pas être suffisamment protégé si ça vous arrive, alors ça peut accentuer la dépression économique.
Alors il y a la question des dépenses dont vous dites finalement on aurait même pu dépenser plus. Il y a la question aussi des recettes de ce régime d'assurance chômage. Il y a eu pendant le confinement des reports de cotisations. Depuis, dans le cadre du plan relance, on voit aussi un certain nombre d'exonérations de cotisations sociales. Donc là encore, c'est un outil d'amortisseur de la crise, en tout cas pour les employeurs. Mais avec quelles conséquences sur la protection sociale?
Alors je pense qu'il faut penser les choses en deux temps. Il y a le moment aigu de la crise, et dans le moment aigu de la crise, faire beaucoup de déficits, aider les entreprises en allégeant les cotisations, reporter les cotisations, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, il va y avoir l'après-crise, en 2023, 2024, quand on sera revenu à une situation peut-être meilleure, en tout cas stable. Et à ce moment-là, il se posera deux questions. La première question, c'est est-ce que les recettes de la protection sociale, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle économie, permettront de faire face aux dépenses? Et donc, dans ce cas-là, si c'est pas le cas, il faudra peut-être augmenter les cotisations ou baisser certaines dépenses. Et puis, il y a une deuxième question qui est en train de se décider maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la dette? On creuse maintenant une dette qui est une dette exceptionnelle en situation de crise. Et ce qu'on craint, c'est que l'État demande aux assurances sociales, c'est-à-dire au chômage ou à la sécurité sociale, de rembourser cette dette dans les 10 ou 15 années qui viennent. Et ça, ça peut être un problème parce que ça risque d'asphyxier financièrement des organismes qui vont bien, alors qu'il y aurait une autre solution, c'est de transférer cette dette à l'État qui aurait devant lui plusieurs décennies pour la faire rouler, pour l'amortir.
C'est ça, parce que là, du coup, la différence, c'est qui va payer la dette? Qu'est-ce que ça change finalement de la faire payer aux assurances sociales?
Alors, les assurances sociales ont des comptes autonomes, c'est-à-dire que par principe, elles doivent équilibrer leurs recettes et leurs dépenses, et c'est plutôt un bon principe, ça sépare ces assurances sociales des comptes de l'État. Le problème, c'est que si on leur fait porter la dette d'une situation exceptionnelle, dans les 15 années qui viennent, elles vont devoir consacrer leurs ressources au remboursement de cette dette plutôt que de faire face aux nouveaux défis sociaux, la dépendance, le chômage, la formation. Si on la transférerait à l'État, il y aurait deux différences. D'abord, ça coûterait un peu moins cher parce que l'État peut emprunter pour moins cher que l'assurance chômage ou que la sécurité sociale. Et puis surtout, l'État a plus de temps devant lui. L'État ne rembourse pas sa dette, il réemprunte indéfiniment la dette qu'il a contractée et simplement il s'acquitte des intérêts. Et donc ça permettrait de porter cette dette sur 4, 5, 10 décennies plutôt que d'essayer de l'éteindre en 15 ans, ce qui est un rythme très rapide.
Vous dites que c'est ce qui se décide maintenant, mais on a le sentiment que le gouvernement a plus ou moins déjà choisi, lui, de faire peser ça sur les assurances sociales plutôt.
Alors le gouvernement a déjà choisi, c'est une décision qu'il a prise en mai en transférant la dette de la Sécurité sociale à la CADES et en disant à l'assurance chômage qu'elle allait payer un tiers du chômage partiel. Cette décision, elle compromet l'avenir de ces assurances sociales. Cela dit, on pourrait tout à fait revenir sur cette décision dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. L'État pourrait décider de reprendre à sa charge cette dette pour donner de l'air aux assurances sociales et leur permettre de faire face aux défis qui les attendent.
Est-ce que cette logique que vous décrivez à propos de l'UNEDIC, elle vaut pour d'autres dépenses de la protection sociale? Quand vous parlez de risque d'asphyxie, quelles conséquences très concrètes cela pourrait avoir?
Alors, c'est un schéma qu'on connaît bien, qu'on avait déjà identifié avant la crise. C'est ce qu'on appelle la politique des caisses vides. Vous avez un gouvernement, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il souhaitait réduire la place des dépenses publiques et notamment des dépenses sociales dans l'économie. Et il y a une stratégie de réforme qui est assez connue, qui consiste à d'abord réduire les recettes pour ensuite rendre obligatoire la réduction des dépenses. Et c'est un propos qui a été tenu très récemment concernant les retraites. Bruno Le Maire a mis en avant l'idée que pour rembourser la dette, il allait falloir réduire les retraites.
Merci Mickaël Zemmour, économiste à l'Université Paris 1, ainsi qu'à Catherine Pétillon. Le nom du successeur du cardinal Barbarin à l'archevêché de Lyon est désormais connu. Le pape François vient de nommer Olivier de Germay, 60 ans, ancien officier parachutiste et évêque d'Ajaccio depuis 2012.
Midi 44, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Le projet de loi inspiré par les propositions de la Convention citoyenne pour le climat devra être présenté en Conseil des ministres en décembre prochain. De quoi laisser le temps d'ici là aux associations de défense de l'environnement de faire part de leurs inquiétudes? Les mesures vont-elles être adoptées et mises en œuvre ou seront-elles rabotées? Quoi qu'il en soit, certains estiment déjà que les promesses gouvernementales de lutte contre le changement climatique prennent l'eau, et pour joindre le geste à la parole, c'est ainsi que pas plus tard que la semaine dernière, plusieurs militants écologistes avaient choisi de déposer des portraits présidentiels sur la Seine. Alors parmi eux, 8 avaient été condamnés l'an dernier à 500 € d'amende pour le vol de ces portraits d'Emmanuel Macron. Et ce matin, Laurence Perron, 7 d'entre eux qui avaient décidé de faire appel étaient rejugés à Paris.
Nous ne sommes pas ici pour nous défendre, mais pour accuser. Les militants d'Action non violente entendent faire de ce procès celui de l'inaction, disent-ils, d'Emmanuel Macron face aux défis climatiques. Pauline, d'ANV COP 21, prévenue.
L'accord de Paris a été signé il y a 5 ans et la France ne respecte toujours pas les engagements qu'elle a pris à l'accord de Paris.
Comme en leur temps, les porteurs de valises contre la guerre d'Algérie ou le procès de Bobigny en 1972 pour l'avortement, il s'agit bien d'interpeller à la barre Emmanuel Macron lui-même. Cécile Duflo, la patronne d'Oxfam, est présente à l'audience et elle soutient.
Écoutez, je suis bien placée pour savoir qu'on n'est jamais obligé d'être ministre. Voilà. La chose qui est certaine, c'est que si le cap écologiste n'est pas donné par le président de la République, ça n'avancera pas. Et c'est pour ça que les décrocheurs de portraits ont décroché le portrait d'Emmanuel Macron.
Les prévenus invoquent la désobéissance civile et l'état de nécessité. Cet article du Code pénal qui exonère de responsabilité toute personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire. L'ancien vice-président du GIEC, le Belge Jean-Pascal Van Iperselle, a été convoqué au procès en tant que témoin. Il abonde.
J'ai écouté le discours du président Macron à la Sorbonne dire qu'il fallait apprendre l'humour, encourager les caricaturistes. J'espère que les politiques français vont comprendre qu'une action non violente comme celle que les jeunes ont menée, il vaut mieux en rire et agir plutôt que rester dans l'inaction.
Les militants risquent théoriquement 5 ans de prison pour vol en réunion. Ils ne restitueront les portraits d'Emmanuel Macron que lorsque le président de la République respectera, disent-ils à la lettre, l'accord de Paris sur le climat.
Nous continuerons ce combat pour la liberté dont Samuel Paty est le visage. Hier, Emmanuel Macron a rendu un hommage national à l'enseignant sauvagement assassiné. Nous ne renoncerons pas aux caricatures et aux dessins, même si d'autres reculent, a notamment insisté le chef de l'État. Alors au lendemain de cet hommage, et parce que le sort tragique de Samuel Paty aura remis en lumière le difficile métier d'enseignant, le ministre Jean-Michel Blanquer a lui lancé ce matin un Grenelle de l'éducation. Déjà prévu en réalité à l'agenda du ministère et devant notamment déboucher sur une augmentation des salaires des enseignants, mais revu donc depuis la tragédie de vendredi dernier pour mettre davantage en avant, je cite, le professeur au centre de la société. Enfin, s'agissant à présent des suites de l'enquête, on a appris ce matin que le meurtrier de Samuel Paty serait entré en contact avec un djihadiste basé à Idlib en Syrie via le réseau social Instagram, et ce, à la mi-septembre, hier, 7 personnes ont été mises en examen pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste.
Après avoir poursuivi toute la semaine dernière leur interminable partie de ping-pong, chacun exigeant de l'autre d'engager le premier pas, le Royaume-Uni et l'Union européenne reprennent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche leurs négociations commerciales post-Brexit, Thomas, à Londres.
Oui, avec évidemment d'importantes divergences à combler et surtout très peu de temps pour échapper à un no deal. Les Européens ont averti qu'un compromis devrait être trouvé avant la fin du mois pour qu'un accord de libre-échange soit en place le 1er janvier prochain, soit à la fin de la période de transition pendant laquelle les règles européennes continuent de s'appliquer sur le territoire britannique, ce qui, à moins de jouer encore les prolongations, leur donne une dizaine de jours seulement pour s'accorder. Tandis que l'espoir d'un vaccin efficace contre le Covid-19 a été assombri hier par le premier décès au Brésil d'un volontaire prenant part au test d'un des nombreux essais en cours dans le monde. Les mesures restrictives se multiplient en Europe face à la résurgence de l'épidémie. Un confinement partiel entre en vigueur aujourd'hui même en République tchèque, qui comptabilise actuellement et de loin le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès rapportés à la population. En Italie, deux régions, la Lombardie et la Campanie, se préparent à instaurer un couvre-feu. En Allemagne, là-bas, les autorités ont visiblement toutes les peines à trouver la riposte face à une véritable explosion du nombre de cas de contamination. Enfin, en Irlande, les mesures les plus dures sont entrées en vigueur la nuit dernière avec un reconfinement de la population pour 6 semaines. Reportage dans les rues quasi désertes de Dublin où notre correspondante Emeline Vin a rencontré les seules personnes autorisées à sortir.
Interdiction de sortir à plus de 5 km de chez soi, sauf pour aller à l'école. David, dont le masque en bulle et lunettes carrées, emmène ses deux enfants à la maternelle.
Je pense qu'ils auraient dû fermer les écoles. On va continuer d'avoir de nouveaux cas. Et puis, ce n'est pas juste pour les enseignants. Ils sont mis en danger. On nous demande à tous de rester à la maison et pas à eux. Ce n'est pas juste.
Selon le conseil scientifique, le virus ne se transmet pas à l'intérieur des écoles, mais plutôt dans les foyers. Les garder ouvertes, c'est important pour les enfants, estime comme Julia, maman en télétravail.
Les enfants ont oublié beaucoup de choses pendant le premier confinement. C'est mieux pour eux et pour nous. Il fallait qu'on soit tout le temps avec eux. On ne pouvait aller nulle part.
Employée d'un centre d'aide aux sans-abri, Jamie n'a pas ce problème. Jugé travailleur essentiel, il va au boulot comme d'habitude, mais...
Je vais à la salle de sport, c'est bon pour ma santé physique et surtout mentale. Et là, c'est fermé pour 6 semaines, ça me saoule. Il fallait le faire, mais je trouve que le gouvernement n'en a pas assez fait. Ils auraient dû agir plus tôt, ils auraient dû donner davantage de moyens à la police. Nos hôpitaux sont sous-financés depuis des années, a fortiori en ce moment. Ils auraient dû leur donner plus d'infrastructures, plus de personnel. Ils auraient pu, mais ils n'ont rien fait.
Le gouvernement espère, avec ces mesures, alléger la pression sur les services de traçage des contacts qui sont déjà trop débordés pour joindre tous les cas contacts.
Alors que la pandémie continue donc de progresser, les principales bourses européennes sont attendues en baisse aujourd'hui dans le sillage de Wall Street et de la plupart des places asiatiques. En cause également le manque de progrès tangible dans les discussions sur de nouvelles mesures de relance aux États-Unis. Hier, le président a accusé les responsables du Parti démocrate de faire preuve de mauvaise volonté, ce qui a ravivé les doutes des investisseurs quant à la perspective de voir le Congrès adopter des mesures avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Quoi qu'il en soit, Donald Trump retrouvera ce soir son adversaire Joe Biden pour un ultime duel télévisé à Nashville. Alors on se souvient que le premier face-à-face avait tourné au pugilat et rien n'indique que le ton sera cette fois-ci plus courtois ou plus constructif, même si en l'occurrence Benjamin Hilly, pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, eh bien les micros des deux candidats seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole.
La nouveauté, c'est bien sûr la règle des micros coupés. La commission des débats l'a mise en place pour éviter aux Américains de subir une nouvelle cacophonie. À Nashville, les candidats auront 2 minutes pour répondre à une question, micro coupé donc pour l'adversaire. Ensuite, une discussion pourra s'engager avec les 2 micros ouverts. Sur le plan sanitaire, les mesures ont été renforcées depuis Cleveland. Dans le public, les invités qui ne porteront pas de masque seront priés de sortir. Mais cette fois, aux dernières nouvelles, pas de parois en plexiglas qui avait été utilisée pour le face-à-face des colistiers à Salt Lake City. La liste des thèmes du débat est déjà connue. Covid-19, les familles américaines, la question raciale en Amérique, le changement climatique aussi, des thèmes choisis par la modératrice Kristen Welker, journaliste de NBC. Alors pour Donald Trump, rien ne va dans l'organisation du débat. La modératrice, selon lui, une gauchiste démocrate endurcie, les micros coupés, c'est injuste. Et il proteste également contre l'absence de questions de politique étrangère. Joe Biden, lui, réserve ses arguments pour la confrontation finale, car depuis lundi, sa campagne sur le terrain est en suspens.
Et j'ajoute que fidèle à sa stratégie centrée au contraire sur une omniprésence sur le terrain, Donald Trump a lui participé hier soir à un meeting de campagne en Caroline du Nord. Et puis côté démocrate, c'est l'ancien président Barack Obama qui, après des mois de campagne virtuelle, est monté en première ligne hier à Philadelphie, l'occasion de livrer ses critiques les plus cinglantes à ce jour à l'égard de son successeur à la Maison-Blanche. Cela pourrait être la première preuve concrète que l'Iran et la Russie sont en train d'essayer d'influencer l'élection présidentielle américaine à 2 semaines seulement du scrutin. Hier, le directeur du renseignement américain a affirmé que Téhéran et Moscou avaient mis la main sur les données de certains électeurs américains et avaient entrepris des actions pour les influencer. Une annonce qui vient illustrer l'inquiétude grandissante parmi les hauts représentants américains sur la volonté d'acteurs étrangers, non seulement donc de saper la confiance qu'ont les citoyens dans l'intégrité de leurs institutions démocratiques, mais aussi de propager de la désinformation pour tenter d'influer sur l'issue du scrutin. Ce matin, Téhéran et Moscou dénoncent de nouvelles accusations infondé. Au Liban, le président Michel Aoun a désigné ce matin Saad Hariri au poste de Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Ironie du sort, c'est lui qui avait pourtant démissionné il y a quasiment un an jour pour jour sous la pression d'un soulèvement populaire déclenché notamment contre les manquements d'une classe politique quasi inchangée depuis des décennies. Comme chaque année, le Parlement européen a décerné ce matin son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, comprenez, pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. La récompense est tombée il y a un peu moins d'une heure. Qui les eurodéputés ont-ils choisi, Angélique, de célébrer cette année ?
Eh bien, le Conseil de coordination biélorusse, le principal organe représentatif de l'opposition, c'est un geste politique fort de la part du Parlement européen. Nous sommes à 3 jours de l'ultimatum lancé par la chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya. Elle a donné au président Loukachenko jusqu'à dimanche pour se retirer sous peine de lancer une grève générale avec fermeture des entreprises et blocage des routes. Svetlana Tikhanovskaya, qui est exilée en Lituanie, qui avait été reçue ici même au Parlement de Bruxelles fin septembre et qui avait brandi face aux eurodéputés de grandes photos, des clichés montrant le dos martyrisé des opposants ou des manifestants tenus en joue par la police. N'abandonnez pas votre combat et nous serons à vos côtés, lui a lancé le président du Parlement européen, David Sassoli, en annonçant ce prix. Le moment est venu d'écouter la voix du peuple, a-t-il ajouté, en direction du pouvoir. Un prix qui renforce symboliquement les sanctions adoptées par l'Union européenne contre 40 responsables du régime impliqués dans la répression et le trucage de l'élection du 9 août et dont la prochaine salve doit viser le président Loukachenko lui-même. Ce prix récompense en particulier les femmes courageuses que l'on trouve à la tête de ce conseil de coordination, Svetlana Tikhanovskaya, mais aussi la prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, une musicienne également, une chef d'entreprise et 6 autres personnalités de la sphère politique et civile qui se battent depuis plus de 2 mois pour défendre la démocratie avec le soutien des Européens.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel le plus souvent couvert avec des ondes et parfois orageuses. Quelques éclaircies réussiront à percer sur le nord et le nord-ouest. Quant aux températures, elles affichent entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Souquet pour le prochain journal de la rédaction.